Seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Non, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e globe trottage à contre-courant de l'information rebattue des médias traditionnels. 8e numéro et dernier de la saison, puisque l'été et les vacances approchent, mais si. Même si pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt oro d'agrègue ou bouclage de mémoire façon valise trop remplie qu'il faut tant bien que mal refermer. Et pourtant, je vous promets, bientôt, if we took a holiday, took some time to celebrate just one day out of life, it would be so nice. Alors pour ce dernier numéro de la saison, je vous emmène au Moyen-Orient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment la destination de vacances que je vous conseille. D'abord, il y a la Syrie, où après plus d'un an de conflit et des centaines de milliers de morts, l'armée syrienne régulière de Bachar al-Assad, qui n'hésiterait pas donc à utiliser du gaz sarin, tout le monde en parle depuis quelques jours, a repris, avec l'aide du Hezbollah, le carrefour stratégique de Qusair, alors que l'administration américaine de John Kerry feint d'organiser une conférence pour la paix afin de masquer son inaction coupable dans ce dossier. Et puis, de l'autre côté de la frontière, toujours contestée d'ailleurs à l'image du Sanjak d'Alexandrette, il y a la Turquie, où l'Occident découvre médusé que l'islamisme d'Erdogan est tout sauf modéré. Tiens donc! Les insurgés de la place Taksim avaient pour référence la Révolution française de 1789. La France, elle, n'a pas vu que la Turquie de Mustafa Kemal n'existait plus, remplacée par celle d'un autocrate islamiste. Si Atatürk n'était pas un saint, il avait créé un modèle de gouvernement en Orient, et les Européens ne cessent d'y faire référence. Mais il semble avoir oublié ses principales leçons. Ne disait-il pas « L'homme politique qui a besoin des secours de la religion pour gouverner n'est qu'un lâche. Or, jamais un lâche ne devrait être investi des fonctions de chef d'État. » À bon entendeur, Tayyip Erdogan, salut. Bref, certes, au Moyen-Orient, il fait chaud, mais n'y voyez rien de propice au... Si,
le soleil, au zénith, va dans 18.
Alors je vous emmène pas plus loin en Syrie et en Turquie puisque tous les médias vous en parlent en ce moment et c'est d'ailleurs tant mieux pour une fois qu'ils abandonnent leur sujet phare en ce début d'année 2013, la météo. Mais on reste au Moyen-Orient pour aller en Palestine où vous n'êtes pas sans savoir que les choses évoluent considérablement ces derniers temps puisque le 29 novembre 2012 dernier, date anniversaire d'ailleurs du vote du plan de partage de la Palestine, eh bien l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la Palestine en tant qu'État observateur non membre, légitimant par cette formule un petit peu bizarre, au niveau international, un État palestinien. Et État palestinien, c'est d'ailleurs le nom donné à feu l'autorité palestinienne, créée, vous le savez, à la suite des accords d'Oslo de 1993 et dirigée par l'emblématique Yasser Arafat, et qui a donc été dissoute par décret le 3 janvier 2013 par le président Mahmoud Abbas et remplacé par un État palestinien. L'autorité palestinienne n'est plus, vive l'État palestinien, et le 7 juin dernier a été nommé, dans l'indifférence générale, le premier ministre de l'État palestinien, en la personne de Rami Abdallah, succédant à Salim Fayyad, premier ministre depuis 2007, et donc, de fait, dernier premier ministre de l'autorité palestinienne. Et ce remplacement de Salim Fayyad par Rami Abdallah, dont tout le monde se moque littéralement dans la presse française, eh bien, il est révélateur de la situation palestinienne et des jeux de pouvoir internes et externes dont elle est l'objet. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Alors on n'est pas très loin, vous allez vous en apercevoir, chers auditeurs, de la Battle of Jericho, célèbre chanson reprise ici par Hugh Laurie. Ben oui, c'est l'antipathique Dr House, il chante, et plutôt bien. Et s'il chante en Palestine, beaucoup déchantent. Et d'abord, Salim Fayyad, qui a démissionné, je le disais tout à l'heure, en avril dernier de son poste de Premier ministre, après tout de même 6 ans aux affaires. Et sa démission, eh bien, elle est révélatrice des contradictions de feu l'autorité palestinienne. La première de ces contradictions, c'est que les institutions dirigeantes de la Palestine, eh bien, elles étaient illégales au regard même de la loi fondamentale palestinienne. Le premier des 4 gouvernements Fayyad, en effet, il avait été créé en juin 2007 comme cabinet d'urgence, alors même que la préparation d'un coup d'État par les États-Unis et le Fatah venait d'être éventée dans la presse israélienne et contrée par le Hamas, vainqueur des élections de 2006. Or, c'est ce gouvernement qui n'était qu'un cabinet d'urgence qui a été reconnu internationalement, alors même qu'il est dans l'illégalité la plus totale. On peut donc penser que ce n'est que justice que Salim Fayyad démissionne, sauf que cela ne résout absolument pas le problème de légitimité du nouvel État palestinien, qui certes possède un nouveau Premier ministre, mais dont le président, Mahmoud Abbas, est également en poste de manière illégale, puisque son mandat s'est arrêté officiellement il y a 4 ans, et parce qu'aucune élection, notamment législative, n'ont été proclamée depuis. Oh, I'm a guilty one, and you know what I have done. Yeah, I'm a troubled one, and I won't be forgiven. À l'instant, un extrait de Guilty de Marina and the Diamonds. Alors coupable, c'est peut-être un petit peu fort, mais illégal, c'est sûr, les autorités palestiniennes, elles l'étaient et elles le sont encore en partie, même si la démission de Salim Fayyad semble aller dans le bon sens. Surtout que, seconde contradiction que révèle cette démission, Salim Fayyad, il avait été installé au poste de ministre des Finances, puis de Premier ministre, par les bailleurs de fonds internationaux, États-Unis en tête, pour mettre en place la transparence administrative, il a presque réussi d'ailleurs dans ce domaine, mais aussi mettre en place le libéralisme économique dans les structures comme dans les comportements de consommation. Or, cette politique, elle était indissociable du maintien de l'occupation et donc de la privation de toute souveraineté économique. L'autorité palestinienne s'est donc retrouvée dans l'incapacité de mener une politique économique conforme à ses intérêts, puisqu'elle était maintenue prisonnière d'une politique de mendicité au niveau international. Le Hamas, vous savez, ce célèbre mouvement islamiste, rival du Fatah, qui lui dirige les autorités palestiniennes, eh bien le Hamas, lui, réclamait d'ailleurs de longue date la démission de Fayyad, le considérant comme, je cite, « un laquais des Américains chargé de la politique de collaboration avec Israël ». Avec la démission de Salim Fayyad, c'est donc aussi le désaveu de cette politique qui s'exprime, Et son successeur, nommé le 7 juin dernier, Rami Abdallah, eh bien, il aura fort à faire devant la crise financière que traverse la Palestine, en état de quasi-cessation de paiement, avec un déficit budgétaire de près d'$1 milliard et une dette extérieure d'environ 4 milliards, n'en jetez plus. Étrangler la Palestine financièrement, elle l'est par la décision d'Israël de saisir les taxes collectées pour le compte des Palestiniens, une mesure qui a cependant été levée partiellement le mois dernier. Bref, la Palestine est un petit peu comme Agnès Bill, en mode no flouze blues.
C'est pas la fin des haricots, c'est le début des emmerdements. Gloire à tous les petits boulots, vive le sacre du plein temps. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, prenons fric aux ayatiches. J'ai le no flouze blues. Oui, j'ai le no flouze blues. No flouze blues. C'est ça le no flouze blues. Mais comment dire à sa banquière qu'on a surtout gagné du temps? Moi, si j'ai vendu père et mère, après tout, c'est que pour l'argent.
Alors Rami Abdallah, je le disais, il aura fort à faire. Et pourtant, de nombreux commentateurs parient qu'il ne fera rien. Ce serait même précisément pour cela qu'il aurait été nommé, lui l'universitaire, inexpérimenté en politique. Et sa nomination, elle a donc une résonance politique forte, celle du retour en force du Fatah et de Mahmoud Abbas, fragilisés par la montée en puissance depuis quelques années du Hamas et par l'importance grandissante prise par Salim Fayyad, le premier ministre démissionnaire, qui était d'ailleurs en conflit ouvert avec le président Mahmoud Abbas depuis des mois. Lui qui était certes détesté par les Palestiniens pour la politique de rigueur qu'il menait, mais qui était respecté et loué sur la scène internationale, les États-Unis en tête, qui en faisaient un Raymond Barre de la politique palestinienne, menant des réformes dures, mais nécessaires. D'ailleurs, les États-Unis ont dénoncé la démission de Salim Fayyad. Pour eux, cet économiste réputé et chevronné, eh bien, il empêchait tout simplement le Fatah et Mahmoud Abbas de mettre la main sur des centaines de millions de dollars d'aide internationale. Bref, pour de nombreux commentateurs, Rami Abdallah est le Medvedev de Mahmoud Abbas qui, par cette nomination et la démission de Salim Fayyad, réaffirme son autorité.
La marionnette fait des pirouettes, elle déambule tout pour son maître. Pour celui qui la manipule, elle se réjouit sur commande. Elle fait la tête, la marionnette.
Alors Rami Abdallah sera-t-il la marionnette que Claire de Namur décrivait et chantait ? À l'instant, l'histoire le dira, mais l'histoire le dira si elle en a le temps, puisqu'en effet, le nouveau Premier ministre s'est décrit lui-même comme le chef d'un gouvernement de transition. Il s'est également engagé, je cite, à faire des efforts de réconciliation et à œuvrer à l'unification politique de la bande de Gaza et de Cisjordanie, auxquels le Fatah et le Hamas se sont engagés d'ailleurs le 14 mai dernier au Caire. Et selon l'accord qu'ils y ont pris, un gouvernement d'unité nationale doit être créé dans les 3 mois, donc au cours de l'été, hein, si on calcule. Et d'ailleurs, Rami Abdallah, le nouveau Premier ministre de l'État palestinien, de déclarer « J'espère que le 14 août, le président Abbas formera un nouveau gouvernement en vertu de l'accord entre le Hamas et le Fatah ». Donc à en croire ses propres déclarations, il serait donc le chef éphémère d'un gouvernement transitoire de 3 mois, à moins qu'il ne se révèle comme le futur artisan de l'unité palestinienne, qui sait, rappelez-vous ce que je disais il y a quelques minutes, Salim Fayyad devait diriger un cabinet d'urgence, il est resté 6 ans aux affaires. D'ailleurs, dans A-Z, l'éditorialiste Barak Ravid résume ainsi la situation, c'est un homme de bon sens, mais dont les chances de réussite sont si ténues que sa feuille de route s'apparente à une mission suicide. Bonne chance, monsieur Abdallah. On termine comme à notre habitude cette émission par une actualité insolite et on reste en Palestine, oui, où le successeur de Rami Abdallah, si successeur il y a, vous avez compris, dans 3 mois ou plus tard, sera peut-être un candidat de télé-réalité. Eh oui, la chaîne Ma'an, avec son émission Al Raïs, comprenez le président, propose aux téléspectateurs de choisir les nouveaux leaders politiques de demain en direct à la télévision. Alors on imagine le Nikos palestinien appelé au vote. Bonsoir les loups. Pour Ahmed, tapez 1. Pour Samia, tapez 2. Et pour Johnny, Malouf, tapez 3. Et pour que j'arrête de parler, tapez moi. Mais si l'émission ressemble à une...
Énorme blague.
Ben non, c'est pas du tout ça, c'est du sérieux. Choisi minutieusement parmi quelques 1200 candidatures, ils sont 25 à s'affronter un jeudi soir par mois à la télévision. Et l'émission se présente comme, je cite... un peu ce qui doit être marqué dans le Télé-Z palestinien, favorisant la citoyenneté chez les jeunes en particulier et les téléspectateurs en général, grâce à une sensibilisation à la participation et à la démocratie et aux droits de l'homme. MAN n'est d'ailleurs pas la seule chaîne de télévision à délaisser concours de chant et de talent en tout genre pour se concentrer sur la politique, ben non, puisque début mars, une émission du même type a été lancée au Liban. Prévue pour durer 6 semaines, elle a pour nom Al-Zaïm, le leader, et 15 candidats sont répartis en équipes. Ils ont plusieurs défis à réaliser chaque semaine. Une victoire de l'équipe assure à ses membres l'immunité, tandis que l'élimination pend au nez du plus mauvais élève de l'équipe perdante, un peu comme un Koh-Lanta, mais de la politique donc. À la clé est tout de même une belle récompense. Le gagnant de l'émission remporte au Liban le droit de se présenter aux prochaines élections législatives de juin, sans étiquette politique, et l'intégralité de sa campagne est financée par l'émission. Si vous êtes intéressés, chers auditeurs, vous pouvez bien sûr vous inscrire à la saison 2. Et le temps de remercier Xavier à la technique et de vous souhaiter de bonnes vacances d'été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour de nouveaux globetrottages à contre-courant de l'actualité rebattue des médias traditionnels. Et surtout, pendant les mois estivaux, faites comme moi. N'oubliez pas de regarder le monde tourner.